Et il est 12h30, l'heure du journal de la rédaction. Et le journal vous est présenté par Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Se démettre plutôt que de se soumettre, le chef d'état-major des armées a remis sa démission ce matin à Emmanuel Macron sur fond de conflit ouvert sur le budget de la défense. Le successeur du général De Villiers doit être nommé dans les minutes qui viennent. Commentaire dans ce journal d'Ilan Malka et de notre invité, le général Vincent Desportes. Ils ne sont plus que 4 Français sur 10 à payer l'impôt sur le revenu. Sommes-nous face à une fracture fiscale qui diviserait la France entre les imposables et les autres? Question posée à Jean-Marc Chardon. Plus de poids pour les citoyens face au rouleau compresseur des grands projets d'aménagement qui menacent la nature. C'était un engagement de François Hollande après la mort de Rémi Fraisse. Avec Laure Verneau, nous verrons si le dispositif ratifié la nuit dernière par les députés va vraiment dans le sens d'un meilleur dialogue environnemental. Dialogue très confidentiel cette fois entre Donald Trump et Vladimir Poutine. La Maison-Blanche confirme un échange d'une heure en toute discrétion au G20 de Hambourg, en dehors de tous les radars officiels que se sont dit les deux présidents. Analyse de Nabila Hamel. Et puis à 12h45, ce sera la grande table d'été, Martin.
Oui, absolument, avec deux invités qui, eux non plus, ne se soumettent pas à des choses never surrender, ils ne se rendront jamais. Il s'agit de Christopher Nolan, le cinéaste qui nous a donné une interview exclusive à l'occasion de la sortie aujourd'hui sur nos écrans de son blockbuster d'auteur Dunkerque. Et dans la deuxième partie, le musicien de jazz tout aussi insoumis, André Manoukian.
Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Les mots sans équivoque du chef d'état-major des armées, Pierre De Villiers, qui a donc remis sa démission ce matin à Emmanuel Macron. Le général De Villiers quitte ses fonctions en épilogue à une semaine de crise politique ouverte avec le chef d'état. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Camille.
On le rappelle, tout avait commencé avec les annonces de coupes budgétaires dans le budget des armées, les économies de trop pour le chef d'état-major.
Oui, il y a effectivement au cœur de la situation d'aujourd'hui un problème de fond et de forme. Alors le fond, ce sont donc ces 850 millions d'économies. L'armée est l'un des secteurs les plus touchés. Cela pouvait déjà en soi constituer un motif de démission. Le chef d'état-major Pierre De Villiers l'avait dit en des mots très crus rapportés par le Figaro. C'était lors d'une audition à huis clos. Je cite, ouvrez les guillemets, « Je ne vais pas me faire baiser par Bercy ». Fin de citation. Cela pouvait déjà faire supposer un départ. À ceci s'est ajouté un problème de forme. « Je suis votre chef », a déclaré Emmanuel Macron, le 13 juillet aux militaires. Si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président, le chef d'état-major des armées change. Fin de citation. Des propos reçus comme humiliants de l'avis des spécialistes de l'armée que nous avons contactés. Pierre De Villiers n'avait en réalité pas d'autre choix que de démissionner.
Et puis d'un point de vue plus politique, Ilan, c'est une démonstration d'autorité très forte de la part d'Emmanuel Macron sur le sujet le plus régalien qui soit.
Oui, il cherche à asseoir une fermeté en rupture avec le manque d'autorité qui était parfois reproché à François Hollande. Sur ce dossier, c'est lui qui est en première ligne. La ministre de la Défense, Florence Parly, se fait peu entendre. Elle a tenté de plaider sa cause sans succès. Aux yeux de l'armée, Emmanuel Macron apparaît également comme quelqu'un qui revient sur un engagement. Il avait promis pendant la campagne d'augmenter les moyens pour atteindre 2% du PIB dès 2025, donc pour l'armée. Alors il continue d'affirmer qu'il le fera dès 2018, mais les militaires veulent des actes pour aujourd'hui et non des promesses pour demain.
Ilan Malka, merci à vous. Je salue à présent notre invité, le général Vincent Desportes. Bonjour mon général.
Bonjour.
Vous êtes également professeur associé à Sciences Po Paris. Alors une démission aussi fracassante d'un chef d'état-major des armées, on l'a dit, sur fond de conflit avec le président, ça s'est déjà vu de mémoire des militaires ?
Eh bien non, ça ne s'est déjà vu, ça ne s'est jamais vu. Une crise de ce niveau-là, il faut remonter à plus de 50 ans, le 21 avril 61 avec le putsch des généraux. Depuis, ça ne s'est jamais passé. Donc c'est effectivement une crise majeure et une crise grave pour la défense de la France. C'est bien comme ça que ça doit être compris, pour la défense de la France et pour nos institutions.
Alors sur la question justement de la démission à proprement parler, ça dit quoi de la méthode Macron sur sa vision du pouvoir et de son rapport avec l'armée ?
Écoutez, je suis très surpris parce que s'il a besoin d'aller réaffirmer son autorité le 13 juillet dernier à Brienne, c'est qu'il craint qu'il n'en ait pas. Or, il en avait. Personne ne contestait son autorité. Et comme dans la situation que vous avez rappelée, il est clair que le problème était entre Bercy et l'hôtel de Brienne. Et on n'a pas très bien compris pourquoi il est rentré dans ce jeu-là. Il aurait dû prendre de la hauteur, puisqu'il se veut gaullien, et régler le problème. Donc, en voulant rétablir son autorité, qui n'était pas attaqué, il s'affaiblit. Et là, il s'affaiblit doublement, puisque désormais, son chef d'état-major lui dit que dans ces conditions, il ne peut pas continuer à exercer sa mission.
Et donc, ça laisse augurer de quoi pour la suite du quinquennat dans le rapport, justement, avec la Grande Muette, qu'il n'est pas tant que ça ?
qui n'est pas tant ça. Et heureusement, puisque sinon, les Français, petit à petit, voient leur défense détruite. Donc, ça va être très difficile à reconstruire, parce que vos auditeurs doivent bien comprendre que l'institution militaire est aujourd'hui une institution choquée. Une institution qui ne comprend pas que le meilleur d'entre eux, puisque le général de Villiers était le meilleur d'entre nous, c'est un homme apprécié par tous, très proche de ses hommes, reconnu sur l'intégralité, par l'intégralité de la classe politique, de droite comme de gauche. Ce type-là qui ne défendait que deux choses, évidemment pas lui-même, qui ne défendait que le droit de ses soldats à avoir un entraînement et des équipements correspondants aux missions qu'on leur donne, et d'autre part qui défendait la défense de la France. Que ce type-là, qui ne faisait que son métier et était poussé à la démission, c'est quelque chose qui va choquer, qui choque aujourd'hui profondément les armées et qui rompt ce lien de confiance absolument indispensable entre le chef des armées, puisque le chef des armées, le président, est le seul qui peut donner l'ordre aux soldats d'aller mourir, hein, et ces mêmes soldats.
Mais alors, général Desportes, le malaise, il ne date pas d'hier sur les questions de défense et de budget, vous l'avez dit vous-même ces dernières années, le général de Villiers également. Emmanuel Macron, tout de même, la semaine dernière, a réaffirmé, Ilan Malka nous le disait, l'objectif de porter le budget de la défense à 2% du budget de l'État en 2025. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est insuffisant? Est-ce que c'est pas crédible?
Alors, d'une part, ce qu'il a dit l'autre jour à l'hôtel de Brienne est en dessous des promesses qu'il a fait, et là, il ne fait jamais que reprendre ce qui avait été engagé par le président Hollande. Donc, pas de changement. Mais le problème, c'est bien ça, c'est que pour l'instant, le président Macron ne donne que de la posture et du discours. Hein, la posture, on l'a vu sur les Champs-Élysées en remontant vers l'Arc de Triomphe, on l'a bien vu aller voir les blessés, etc. Donc, on a cru qu'il y avait quelque chose de très fort, et en fait, ça n'était jamais que de la posture.
Général Vincent Desportes, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc pour commenter cette démission du chef d'état-major Pierre de Villiers. On attend d'une minute à l'autre, hein, à la fin du Conseil des ministres, la nomination donc très rapide du nouveau chef d'état-major remplacé et donc nommé par le gouvernement dans les minutes qui viennent. Les salariés de GMES seront-ils fixés sur leur sort ce vendredi? C'est loin d'être sûr, alors que le tribunal de commerce de Poitiers étudie depuis 10h ce matin le projet de reprise par l'emboutisseur stéphanois GMD, un repreneur qui pointe encore trop de points problématiques dans l'effort que doivent consentir les clients de GMS, Renault et PSA. Incertitude également sur le transfert de propriété du site industriel de la Souterraine. GMD demande donc un nouveau délai jusqu'à la fin du mois d'août pour lever les incertitudes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, est attendu cet après-midi sur place à l'usine GMS pour faire un point d'étape, dit-il, avec les salariés. Une statistique à présent qui pose question, c'est le fisc qui l'a révélé hier. L'an dernier, près de 6 Français sur 10 n'ont pas été soumis à l'impôt sur le revenu. 42,8% des ménages ne sont pas imposables. C'est un record jamais atteint depuis le plus fort de la crise financière en 2009. Bonjour Jean-Marc Chardon.
Bonjour Camille Magnard.
Beaucoup de réactions ce matin à ce chiffre dans la presse économique, avec cette image qui revient beaucoup, celle d'une France divisée en deux, un poids de l'impôt qui reposerait surtout finalement sur les classes moyennes.
Et en effet, 3 millions de ménages qui étaient imposables en 2013 se sont évaporés. C'est historique en si peu d'années, même s'il est vrai que le début du mandat de François Hollande s'était accompagné d'une forte poussée de la fiscalité. Alors, 3 millions de contribuables en moins. Ainsi, en 3 ans, le seuil au-delà duquel un ménage avec 2 enfants est assujetti à un impôt sur le revenu, il est passé de 27 000 à 41 000 euros. L'écart est considérable sous l'effet de 3 gestes fiscaux, notamment sous forme de baisse forfaitaire, suppression de tranches et décote. Alors, de fait, ce sont les classes moyennes qui ont comblé ce manque à gagner. A priori, ce ne devait pas être le cas, puisque le précédent gouvernement avait annoncé un allègement en direction de ces mêmes classes moyennes, mais en précisant inférieur, c'est-à-dire des contribuables gagnant un peu plus du SMIC, 1,1 SMIC précisément. Autant dire qu'on a mélangé classe moyenne et populaire, créant une grande confusion l'automne dernier. Au bout du compte, si le niveau de vie a progressé un peu, d'environ 4,5% pour les plus modestes durant le quinquennat, il a diminué pour les classes moyennes. Impossible d'ailleurs de donner une moyenne qui ait beaucoup de sens, car ses revenus sont très dispersés, mais c'est de l'ordre d'une ponction de l'ordre de 300 à 400 euros par an.
Jean-Marc Chardon, avant de poursuivre ce journal, je reviens sur l'information principale que nous développions tout à l'heure avec la nomination il y a quelques instants du nouveau chef d'état-major des armées, donc en remplacement du général Pierre de Villiers. C'est le général François Lecointre qui prend donc la tête de nos armées. C'était cette fois un engagement de François Hollande après la mort de Rémi Fraisse en 2014. Les députés ont ratifié cette nuit une ordonnance qui donne plus de poids aux citoyens pour contester des grands projets d'aménagement menaçant l'environnement. On pense bien sûr au barrage de Sivens, à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou plus loin de nous au Larzac. Un droit d'initiative est donc créé pour améliorer le dialogue environnemental avant que les chantiers ne soient mis en branle. Laure Verneau, reste à savoir si tout cela est bien nouveau par rapport aux enquêtes publiques qui existent déjà et si ça va vraiment donner la parole aux citoyens.
Oui, car plus qu'une enquête publique, c'est une concertation avec les pouvoirs publics que les citoyens, les collectivités et les associations de droit à l'environnement vont pouvoir demander. Le mode de participation est lui aussi dépoussiéré. La procédure administrative est dématérialisée. Donc maintenant, on peut faire des observations par exemple par internet sans passer par le fameux dépôt de dossier à la mairie ou à la préfecture. Pour Simon Persicaud, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, c'est un pas vers la modernité.
Le modèle classique selon lequel il y avait des élections, une fois les élections passées, les responsables politiques qui étaient élus pouvaient faire passer tout ce qu'ils voulaient. C'est un modèle qui est dépassé, qui ne correspond plus à la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, tout ce qui va vers la responsabilisation des citoyens d'une certaine manière et accepter qu'ils participent au débat public, ça va dans le bon sens.
Mais ce droit d'initiative s'exerce bien sûr dans un certain cadre. Ce droit est ouvert à 20% de la population des communes ou à 10% de la population du département et de la région concernée. Des seuils quand même assez élevés qui pourraient affaiblir la contestation, voire démobiliser.
C'est sûr qu'il y a toute une série de contestations qui n'auront pas lieu et de concertations qui n'auront pas lieu parce que le nombre est trop élevé. Ça, c'est évident, donc ça limite en fait la portée. Et en même temps, ça responsabilise d'une certaine manière les citoyens. Ou alors, on peut considérer que la concertation est vraiment légitime puisque ce seuil a été atteint et que dès lors, ça signifie qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe dans la commune ou dans le département ou la région considérée.
Mieux organiser le dialogue environnemental, mais aussi structurer les modes de contestation, comme par exemple les manifestations massives ou l'occupation des sites. Voilà en soubassement l'ambition de cette ordonnance.
Laure Verneau, merci pour ces précisions. À noter qu'à l'Assemblée, hier, les députés communistes et insoumis ont voté contre ce dispositif qui, selon eux, n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Qu'ont-ils bien pu se dire au cours de cette heure de rendez-vous ultra confidentielle ? On ne le saura jamais, c'était justement le but recherché par Donald Trump et Vladimir Poutine qui se sont donc vus en tête-à-tête impromptu il y a 2 semaines maintenant après un dîner protocolaire au sommet du G20 d'Hambourg. Une discussion, elle, tout sauf protocolaire. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
C'est justement ça qui choque aux États-Unis. Les deux dirigeants, dont on sait qu'ils sont suspectés de collusion, ont discuté sans qu'aucun témoin de la délégation américaine ne soit présent, même pas le traducteur officiel de Donald Trump.
Oui, un responsable de la Maison Blanche s'attendait-il à une fuite qui poserait forcément question sur ce deuxième entretien ? Toujours est-il que cette discussion n'a été rendue publique qu'hier. Le collaborateur de Donald Trump, qui en a le premier parlé, a minimisé ou banalisé ce fait. Il y a eu, dit-il, un dîner purement social pour les couples au G20 et c'est vers la fin que le président a parlé à Poutine. Oui, mais une heure, c'est une durée inhabituelle pour ce type d'entretien, au point d'avoir surpris d'autres invités, révèle le New York Times. Le dément tweet de Donald Trump, si vous me permettez cette expression, est arrivé très vite, selon sa rhétorique habituelle. Cette fausse histoire de dîner secret est démente. La presse savait, ces fausses nouvelles sont de plus en plus malhonnêtes. La presse est donc visée, cette presse américaine, qui n'en finit pas d'évoquer de nouveaux indices d'une possible collusion entre membres de la campagne électorale ou proches de Donald Trump et des personnalités russes. Dernière révélation en date, la rencontre qu'aurait eue son fils en juin 2016 avec une avocate russe, susceptible de fournir des informations sur la candidate Hillary Clinton. Cette avocate, que l'on dit proche du Kremlin, s'est déclarée ce matin prête à aller devant le Congrès pour dissiper ce qu'elle a appelé l'hystérie collective à propos de son entrevue avec le fils Trump. C'est en tout cas dans ce contexte de fortes tensions avec Moscou que Donald Trump a nommé un nouvel ambassadeur des États-Unis en Russie. Il a choisi un diplomate aguerri en la personne de John Huntsman, un mormon républicain de 57 ans qui était ambassadeur à Pékin durant le second mandat de Barack Obama.
Nabila Hamel, au Yémen à présent, le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU se dit profondément choqué et attristé. Il condamne une nouvelle frappe aérienne qui a tué au moins 20 civils hier sur un camp de déplacés géré par le HCR. Le Yémen, on le sait, déchiré depuis plus de 2 ans par la guerre que mène à la rébellion chiite des Houthis, une coalition menée par l'Arabie Saoudite. Un mot de météo enfin, avec de fortes pluies orageuses qui menacent 15 départements du centre et du sud-ouest, placés en alerte orange par Météo France. Les températures cet après-midi sont comprises entre 20 degrés à Brest et Cherbourg, 29 à Paris, Ajaccio et Marseille, 33 à 35 degrés sur l'Alsace. Cette édition a été réalisée par Yacine Bouzard. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un prochain journal.